Oh putain. Derrimon Reda. Enfin, je veux dire, Derridor et moi. Derrida est mort, quoi. Quel con. Ce qui m'a anéanti le plus dans cette histoire, c'est de constater à quel point je ne suis pas dans la réalité. Je croyais que les journaux n'avaient parlé que de ça, tu vois. Et que j'allais pouvoir les contester, que j'allais pouvoir leur dire, vous nous faites chier avec Derrida. Eh bien non, tout le monde s'en fout. Et du coup, je me vois dans l'obligation de prendre sa défense. Comment t'expliquer? Des gens comme Sartre, Foucault, Deleuze, Bourdieu, Derrida, c'est des gens que j'aime même quand je les déteste, voilà. J'ai constamment envie de contester leur autorité, mais si je constate qu'ils n'en ont aucune, ou très peu, alors je suis scandalisé. Voilà. C'est ça une autorité, en fait. C'est un mec, c'est une pointure à qui tu veux te mesurer, quoi. Puis si tu vois que tout le monde s'en fout, tu te dis quelle bande de cons. Qu'aux nouvelles de France Inter. J'ai appris ça à la fin des nouvelles de. Encore à la fin des nouvelles sur la 2. Je me dis, attends, c'est pas vrai. Alors à 22h, j'écoute, 1 minute 25. C'est passé après le foot, c'est passé après Chirac, et autres connards qui a parlé de je sais pas quoi, Airbus, le volume de marché que représente Airbus en Chine, quoi. Et à la fin, Derrida, oui, c'est un homme de conviction, un homme très bien, peu connu en France, mais célèbre aux États-Unis. Enfin, je veux dire, comme si c'était... comme si on pouvait résumer Derrida, ça.
Voilà, ce sera le message hommage de la Bassigifi. Merci à cet auditeur, à Jacques Derrida. Et on l'avait rencontré, si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, le 8 mai dernier, à l'occasion du 50e anniversaire de la création du mensuel Le Monde Diplomatique. Et on avait demandé à Jacques Derrida, qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui?
Ça n'est pas une seule question, c'est 1000 questions. Beaucoup de choses me révoltent aujourd'hui. Mais en particulier, pour aller au plus court, ce qui, d'une part, viole le droit international. Toutes les défaillances des institutions internationales, à l'initiative desquelles je crois, hein, mais tout ce qui empêche, par exemple, des institutions comme l'ONU de jouer son rôle parce que elle ne dispose pas des forces nécessaires pour cela, qu'elle doit par conséquent se plier aux volontés ou aux intérêts de la puissance américaine, et cela conditionne tout un paysage géopolitique. Eh bien, ce que je regrette, c'est cette hégémonie à laquelle l'Europe, une Europe qui ne s'est pas encore faite et dont le modèle, pour l'instant, m'inquiète plutôt que cette Europe dont je rêve, qui pourrait faire contrepoids à cette hégémonie, ne soit pas encore prête. Donc c'est un plaidoyer pour une certaine Europe qui, justement à cause de son histoire, de sa mémoire des Lumières et aussi de sa culpabilité assumée, de sa mauvaise conscience après le stalinisme, le nazisme, les génocides, le colonialisme, à cause justement de cette prise de conscience coupable, l'Europe est capable de s'opposer à la fois à l'hégémonie américaine, à la montée en puissance de la Chine, avec laquelle il faut compter, et aux théocraties arabo-musulmanes. Donc c'est un plaidoyer pour une Europe. Alors je suis parti du fait que le monde diplomatique a été créé en France et son ancrage dans la langue française dans l'Europe pour que le monde diplomatique, et qui est irremplaçable dans le monde, qui ne serait possible dans aucun autre continent et aucun autre régime au monde, que le monde diplomatique œuvre pour une Europe capable de jouer le rôle que je viens de rappeler.
Vous considérez comme un altermondialiste?
Absolument. Vous savez, bien avant que le mot n'existât, j'ai publié dans Spectre de Marx des propositions qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire ce que j'appelais une nouvelle internationale, alliant au-delà même du cosmopolitisme, qui suppose toujours l'autorité de l'État et la citoyenneté, au-delà de la citoyenneté, au-delà du cosmopolitisme, une nouvelle internationale qui rassemble tous ceux qui, dans le monde, sont opprimés, souffrent de cette globalisation néolibérale, disons pour le dire vite, et qui ont des affinités entre eux, même si ça ne passe pas par l'organisation d'un parti ou par une organisation nationale. Et je constate que dans les 10 dernières années, le mouvement a pris l'importance qu'on pouvait lui souhaiter. Naturellement, reste encore hétérogène, un peu chaotique. Il n'a pas encore la forme, l'organisation, le discours qu'il devrait avoir. Mais c'est en chemin. Et en tout cas, je crois que c'est la seule force décisive pour l'avenir. C'est la seule force qui fera plier, qui déjà contraint les grandes organisations hégémoniques du monde. Je l'ai cité tout à l'heure en citant Ramonet lui-même, n'est-ce pas, le FMI, l'OCDE, le G8, etc., etc. Je crois que les grands rassemblements de Porto Alegre, de Bombay, etc., annoncent cette montée en puissance de l'altermondialisme, dont je crois qu'elle sera décisive pour l'avenir.
Voilà la voix de Jacques Derrida, donc le 8 mai dernier. Nous, aujourd'hui, on va faire un retour en arrière sur une histoire, une page héroïque de l'histoire sociale et politique de notre pays, que évidemment aurait passionné Derrida, a passionné à l'époque évidemment Jacques Derrida, c'est l'IP. Pour toute une génération, l'IP, c'est tout de suite tout de suite c'est l'IP Moura. Pour toute une génération, puis une génération qui ne voit pas du tout ce que ça veut dire. Alors on va essayer de le faire passer de l'un à l'autre, cette page, je le disais, de l'histoire sociale, non pas vue comme est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, mais comme une expérience tout à fait remarquable, riche d'enseignements, et à l'origine de ce que certains ont appelé dans cette émission le grand bond en arrière. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, donc vous connaissez bien, sur le numéro 01 56 40 37 37.
Bonjour, Raphaël de Meudon. Ben, je viens de passer une heure dans ma voiture à traverser une partie de la banlieue parisienne, et puis malheureusement en voiture, mais on peut pas lire et conduire en même temps. Alors, en fait, quel plaisir d'écouter cette émission pleine de poésie de ce soir vendredi. Donc, je voulais remercier toute l'équipe. Le concept fut un délice. Merci, à bientôt.
Bonjour, je viens d'écouter votre émission de vendredi sur les livres et les lecteurs dans le métro. Et j'ai vraiment été très émue, et surtout par le monsieur qui conduit la rame. Et je me disais que ce serait bien si au lieu des messages diffusés sur la sécurité, le vol des bagages, attention aux bombes, à vos sacs à main et tout ça, aux mendiants, et ben si à la place de ça, il y avait des petits bouts de lecture par-ci, par-là. Je pense que ça ferait beaucoup de bien dans la tête de tout le monde. Voilà, je suis Christine, je fais des livres dans un petit village à Ézijouy dans l'Aisne. Et la maison, ça s'appelle l'arbre. Voilà, ça fait du bien dans la ville. Allez, merci, au revoir.
Aujourd'hui, cela fait 1095 jours que je suis otage de Chirac, Raffarin et Sarkozy. Si je suis otage, vous l'êtes aussi. Ne nous oublions pas. C'était François Prédren.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Sébastien Galceran. Lip.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous, les Lip, 1973-2003, parcours d'engagement.
Espérer nous mettre à genoux, simplement en occupant l'usine. Mais est-ce qu'il ne le sait pas, ce sacré pouvoir, que l'usine est là où est où jouent les travailleurs? C'est pas des murs, l'usine, c'est d'abord des travailleurs. Et l'usine. Pauvre Charbonnel, l'usine, on va la reconstruire. Ça veut dire que le gymnase Jean Zay, qui est à proximité de Palante, on va lui mettre un drapeau. Ce sera le drapeau LIP. Ce sera la nouvelle usine. On continuera.
Les gardes mobiles viennent d'évacuer l'entreprise le matin même quand Charles Piaget prend ainsi la parole devant les LIP en grève, le 14 août 1973. Les salariés de LIP occupaient leur usine depuis le mois de juin. LIP, qu'une décision du tribunal de commerce condamne à la liquidation judiciaire. L'IP qu'aucun plan de sauvetage ne préserve du démantèlement. L'IP où ils veulent tous continuer de travailler. Cette veille de 15 août, une manifestation improvisée de 10 000 personnes parcourt la ville de Besançon pour les soutenir.
Ni voiture, ni maison, ni château, sauf en Espagne. Je n'ai aucun bien et aucun patrimoine, sauf une montre de rien du tout, cadeau d'un ami avec qui, un soir, nous parlions de Lip, bourra. Et pour une génération, dire libre, c'est ouvrir un placard qu'on souhaiterait peut-être un peu fermé, qu'on souhaiterait un peu débarrassé. Ça renvoie au bon vieux temps des utopies où l'on y croyait, où l'on croyait à l'avènement d'une société nouvelle, à l'autogestion, à l'imagination. Le temps où l'on osait encore rêver d'une autre société. C'était en 1973, ces rumeurs, ces cris, cette voix de Charles Piaget qu'on entend. L'affaire Lip, l'aventure Lip, la saga Lip, une des pages les plus riches de l'histoire des luttes sociales. Oui, j'ai dit riche. Et on a voulu aujourd'hui revenir dessus après différentes émissions qu'on vous a présentées sur récemment des plans sociaux, récemment des autres façons de diriger, de vivre dans une entreprise. Revenir dessus, non pas non plus pour dire gagné ou perdu, mais pour dire expérience. L'histoire d'Ellipse, c'est une expérience à l'origine, à l'orée de notre histoire présente. C'est là que commence le chômage, c'est là que commence la révolution conservatrice néolibérale qui va s'installer ensuite dans les années qui viennent, qui viendront, qui suivront en France. Mais ils ne se sont pas rendus sans se battre et d'ailleurs se sont-ils rendus. Le 15 juin 1973, 15 000 manifestants, ils sont à Besançon bien sûr, à Besançon. Et en tête, il y a les 1000 salariés de l'IP qui depuis 2 mois se battent contre la fermeture de leur usine de Palante, des syndicalistes, des parlementaires, mais aussi l'archevêque de Besançon. En 73, le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, le dit, Lip, c'est fini. Déficit, concurrence, Lip, c'est fini. Mais les salariés de Lip ripostent, ils occupent l'usine, ils font marcher l'usine, la production est relancée, sans patron, et partout l'on répète, on fabrique, on vend et on se paye. On fabrique, on vend, on se paye. Et nous on rêve, ou plutôt on rêve plus, c'est l'autogestion, ça y est, et puis ben non. Alors, perdu, aujourd'hui, si on va à Besançon, on rencontre des LIP de cette époque. Et on en rencontre partout en France. Et tantôt ils sont fiers, tantôt ils sont amers, et le plus souvent ils sont les deux. Mais je l'ai dit, c'est pas ainsi qu'on va avancer dans, partager ce qui suit. Je l'ai dit, c'est plutôt une expérience qui, à mon avis, peut éclairer aujourd'hui et demain. Je vais vous dire pourquoi on écoute ça aujourd'hui. En fait, le 15 août dernier, le 14 août dernier, j'étais en voiture sur l'autoroute et j'ai écouté France Culture. Et j'ai entendu ce formidable documentaire de Sébastien Galcéran. Et il a bien voulu nous autoriser à utiliser les documents de son reportage, de son documentaire. Voilà, c'est donc ce qu'on va écouter aujourd'hui, cette mémoire d'Élie, avec les acteurs, les rumeurs, les passions, et pourquoi pas le dire aussi, les leçons que cette époque peut nous apporter. Lip.
Bonsoir. Brusque tension chez Lip. Bruno Albin était sur place et il a recueilli quelques échos sonores de cette manifestation. Il faut préciser tout de suite que ce ne sont pas les ouvriers de Lip qui ont organisé cette manifestation, mais des jeunes gens casqués et armés de cocktails Molotov, peut-être des gauchistes, nous n'en savons rien pour l'instant. En tout cas, un des leaders syndicaux de l'IP, Charles Piaget de la CFDT, s'est adressé aux manifestants à l'aide d'un porte-voix pour lancer un appel au calme. Écoutez.
On demande à tous ceux qui sont présents d'éviter de tomber dans le piège du pouvoir, de réorganiser l'entreprise, là-bas au gymnase Jandet, de reproduire et de vendre. Ça sera préférable aux affrontements. Parce que le pouvoir cherchera toujours à fixer tous les problèmes autour de cette usine et de ses affrontements.
À Besançon, cette année-là, un millier d'hommes et de femmes se sont levés. Est-ce qu'on fait des vers avec l'actualité immédiate ? Poète, est-ce ton rôle de témoigner pour le feu qui naît ? Est-ce qu'on peut écrire des chansons sur ces femmes qui se sont mises en dimanche ? Pendant 8 mois parce qu'il fallait montrer qu'on était des gens respectables et que la grève, ce n'est pas le laisser aller mais la rigueur.
C'était un combat au corps à corps, c'était un combat entre... on était des frères,
C'était un 12 juin, il faisait très chaud, les blouses blanches partout, les blouses bleues, c'était des couleurs, c'était des sons, c'était de la colère, c'était... une tension qui montait au fur et à mesure que la journée confirmait le fait qu'on n'avait pas de solution et des groupes qui se ressoudent et qui se déterminent, si vous voulez, une ambiance de détermination qui est là et qui se confirme, quoi. Et puis du coup, au bout d'un moment, on a dit on va tous envahir les bureaux, donc on se réunit au conseil d'administration. Alors bon, imaginez que dans ce moment-là, quand on était mélangé, les blouses bleues et les blouses blanches, c'était déjà beaucoup. Les ateliers, les horlogères avec celles qui travaillaient dans les ébauches et puis les mécanos et c'était déjà beaucoup. Et puis tout d'un coup, on franchissait quelque chose qui était impossible, c'est d'aller rentrer dans les bureaux. C'est qu'on allait dans les bureaux de la direction et qu'on bloquait et on occupait les bureaux de la direction. Et ça, c'était aussi un pas de... Comment dire, un acte de poser.
Une réunion en pleine nuit à la préfecture de Besançon. 4 délégués du personnel de l'usine LIP ont été convoqués par le préfet. Le conflit dans cette fabrique d'horlogerie a pris une dimension nouvelle depuis hier soir. 4 membres de la direction sont séquestrés par les ouvriers. Le conflit dure depuis près de 2 mois. Le dépôt de bilan risque d'être décidé bientôt. Et un délégué syndical a expliqué le pourquoi de cette séquestration à Bernard Delcroix.
Les administrateurs provisoires de la judiciaire de la société ont envisagé de réunir le comité d'entreprise cet après-midi à 3h pour leur donner de l'information. Bien sûr, nous avons tenu nos camarades depuis l'intérieur du local où se tenait ce comité d'entreprise au courant au fur et à mesure par téléphone, n'est-ce pas, de la situation. Et au bout d'un moment, le personnel dans son ensemble est venu envahir le bureau dans lequel se tenait cette réunion. Et en étant très en colère et en disant, bon écoutez messieurs, il y en a marre. Et nous, on n'est plus d'accord, vous ne partirez plus de cette salle tant qu'une solution valable ne sera pas acquise.
On va pas donner de détails, mais on va dire ce moment-là, qui a été très chaud et très lourd. C'était à l'issue donc de la séquestration des administrateurs. Arrivé à une certaine heure, la police et la préfecture refusent de négocier. Ils décident de venir les libérer. Nous nous trouvons aux alentours de 22h, la police qui arrive casquée. Nous sommes enfermés, rappelez-vous, dans l'usine. Il fait une chaleur pas possible. Et ils arrivent casqués, ils envahissent, ils passent par-dessus donc les barbelés, hein, les grillages. Et ils tombent sur les gens qui sont là. Et là, ils tapent sur ceux qui sont là hein, pour monter au premier étage et libérer.
Dans le hall de direction
dont parlait Colette. Bon, puis il fallait quand même surtout pas provoquer. Et il fallait qu'on reste le plus possible digne, à un moment donné qu'on fasse barrage, mais sans aller jusqu'à risquer quoi que ce soit. Ni qu'ils viennent ternir notre conflit, ni qu'ils entravent ou qu'ils blessent quelqu'un. Quand ils sont partis, alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'est réunis. De toute façon, on venait de découvrir qu'ils nous licenciaient. De toute façon, ils n'avaient pas de solution de rechange. Et de toute façon, les pouvoirs publics étaient prêts à tout. Donc ce soir-là, c'était la décision ultime, c'est que le lendemain, il fallait surtout pas que les gens se soient découragés par cette idée qu'on n'avait rien et que chacun se retourne chez soi. Alors on a décidé de s'organiser pour sortir le stock. On est tous descendus là où il faut pour mettre en carton. pour mettre et respecter les règles et faire des voitures qui ont sillonné, qui partaient. Et du coup, on est arrivé à 7h du matin, tout était clos, les affaires étaient classées, les montres étaient cachées, on arrive à l'AG en disant ça y est.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, par exemple, pendant le conflit? Pendant le conflit, vous occupiez de quoi?
Des pays sauvages. Ou les pays dits sauvages. On faisait exactement le même travail que comme on le faisait précédemment avec des patrons. Ah, on était fermes et tout, il n'y avait pas de...
La Lilip, quand on a été expulsés donc, de Palente, donc le 15 août 73, et nous avons eu à notre disposition ce Cinémalux. Et donc, le jour de la première paye dite sauvage, il y avait à l'affiche « Prends l'oseille et tire-toi ». Et c'était extraordinaire parce qu'on avait nos enveloppes et effectivement, ça se passait dans la plus grande clandestinité. Et bien alors, on arrivait, on ne savait pas qu'on avait les feuilles qu'on allait se payer. Et tout d'un coup, on disait « On ferme les portes, on va se payer ». Colette faisait partie de ces équipes-là.
Toute seule, hein.
Voilà, non, faisait partie. Mais oui. Mais
nous allons maintenant passer à une opération spéciale. Alors, je demande donc de fermer les portes comme c'est prévu de l'entrée, afin que personne ne puisse rentrer et sortir, y compris la presse. Les portes de chaque côté de la scène seront fermées aussi. Nous allons distribuer la paye. Alors fermez là-haut. Alors s'il vous plaît, du calme. C'est pas la première fois.
Et on vendait nos montres. On a eu pour 1 milliard de centimes en 2 mois. De centimes, hein. Parce que je comptais encore pas en... Et maintenant, faut que je compte en euros, alors c'est dur. Bon. Ce qui était drôle, parce que je cite les anecdotes, parce qu'elles sont quand même significatives. Les journaux ont publié que la direction de l'IP ne prenait aucune responsabilité quant à la qualité des montres. Or, les montres, c'est toujours nous qui les avions faites. C'était pas eux qui les vérifiaient. C'était nous qui les vérifions. Hein, j'étais contrôleuse de chaîne au confort d'une chaîne. Donc, je vérifiais que les montres étaient en parfait état et qu'elles fonctionnaient bien.
Vous vous êtes mis debout. Soudain, vous étiez devenu l'espoir du monde. L'espoir du monde, vous, petite dame coquette et sans histoire, sans passion. Le premier jour, l'un de vous a dit « La grève sera longue, c'est avec les pieds dans la neige que nous finirons. » C'est donc facile de faire des vers sur le courage et sur la peur.
Ils ont vécu en surmultiplié, quoi. Ils carburaient à...
Gaston Bordet.
Parce que, bon, il y a eu le conflit sur le lieu du conflit. Mais ils étaient ensuite commis-voyageurs, prophètes, orateurs partout, en Italie, en Allemagne, en Suède, Danemark, je crois même au Canada. Enfin, ils me corrigeront. Ils ont su donner une audience assez extraordinaire à leur conflit.
L'IP, un mythe encore vivace. Pourquoi encore vivace, selon vous?
C'est quand même une phase... de l'histoire ouvrière, à la fois classique et à la fois extrêmement originale. C'est un combat qui a vécu très longtemps, original en ce sens qu'ils ont dit « on se paye, on continue à produire ». Ils ont été chassés de l'usine au matin du 13 août 1973, les CRS sont rentrés dès que le soleil s'est levé, conformément à la loi ou aux habitudes. Ils se sont installés ailleurs. La municipalité leur a donné un gymnase et ils allaient les locaux alentours dans le quartier de Palente et des Orchamps pour pouvoir s'installer là. Et ces gens-là, ils ont mené une lutte pour la défense de leur travail, pour avec le slogan vivre et travailler au pays. En plus, c'est des gens qui étaient, c'est comme ça, les meilleurs horlogers de France. Et c'est des gens qui étaient habitués à analyser les situations économiques. Ils étaient capables de lire un bilan. C'était de bons ouvriers. Et donc, ces gens-là, ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont eu conscience qu'ils vivaient quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il fallait l'exporter. Il y avait une lutte symbolique. On ne veut pas être racheté par des Suisses. Donc, ils savaient ce qu'ils étaient. Ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient et ils prédisaient très vite ce qui allait se produire, c'est-à-dire la catastrophe. Et sachant qu'ils étaient en haut de la pyramide ou en haut de la voûte, qu'ils étaient en quelque sorte la clé de voûte de l'industrie horlogère française. Ils savaient que si cette clé, si cette pierre s'en allait, c'était l'industrie, l'horlogerie française qui s'effondrait.
Aussi, les gars de la police qui sont là, qu'on oblige à être là, vous avez peut-être depuis 2 heures compris ce qu'était la solidarité ouvrière. Rien ne vous empêche de vous concerter et de peut-être essayer, puisque vous n'avez pas la possibilité de parler, vous réfléchissez. Et un jour, vous pourrez aussi vous retourner contre les injustices qui vous sont imposées.
Dans le conflit, il y a une interpellation majeure. Bon, on a vu des personnes complètement renversées, de voir à quel degré ils changeaient et ils étaient devenus des gens capables de donner gratuitement d'eux-mêmes énormément. Et bon, ben, ça aussi, ça montre un espoir fou, c'est que puis, tout autour de nous, ça peut changer, ça peut changer.
Nous, on part d'un principe que c'est nous qui avons bâti cette usine là-bas. Surtout les personnes d'un certain âge et puis qui ont travaillé depuis X temps là-bas. Depuis ce conflit qui a fait beaucoup de bien à nous tous, les personnes âgées avant qui ne voulaient pas discuter avec des jeunes parce que soi-disant on était trop jeunes pour comprendre, maintenant on discute avec les jeunes aussi, il n'y a plus de différence quoi, les âges ne comptent plus, que ce soit personnes âgées ou jeunes ou moins jeunes, il n'y a plus de différence du tout. Et c'est très bon ça.
On savait que une restructuration qui s'annonçait, des problèmes massifs, comment ça s'annonçait, se mettre en grève tout de suite, c'est se couper des salaires, et on savait qu'aucun conflit n'avait comment réussi à faire en collecte plus de 10% de la valeur des salaires. Ça voulait dire que si on se mettait en conflit comme ça, eh bien, notre mort était inscrite au bout d'un certain temps. Parce que sans argent, sans rien, c'était foutu, on allait s'inscrire à la CEDIC et puis c'était tout. Donc il fallait éviter de se lancer trop tôt dans une coupure des salaires. Donc c'était un apport de l'expérience syndicale qui était nécessaire. Et parce qu'il y en avait beaucoup qui, et c'est normal, ils ont encore pas combattu tout ça, et ils disaient tout de suite il faut arrêter le travail, on a dit non, ce qu'il faut faire c'est faire en sorte que dans sa tête, quand on est au boulot, c'est normal, on est pris à presque 100%, enfin j'exagère un peu, mais on est pris à 90% de sa tête dans le boulot. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on soit moins pris, qu'on garde un petit morceau pour la lutte, qu'on essaye de réfléchir les uns et les autres à la situation, au débat, aux réflexions qui se présentent, qui se font, de façon à pouvoir mener notre conflit ensemble.
Vous allez voir les ouvriers, vous leur dites ça, vous
le... À ça, on distribue une information pour expliquer tout ça et dire voilà, la proposition, maintenant faut y réfléchir. Comment? Par exemple, on a un échec, nous on a dit bon, c'est mathématique, chacun réduit les cadences. Bon, par exemple, un délégué va s'asseoir près d'une ouvrière à l'horlogerie. Mais je peux pas. Mais c'est dans la peau. Dès que je recommence à travailler, au bout de 3 minutes, ça y est, j'ai beau réfléchir à quelque chose, me voilà, ma cadence est repartie. Donc ton histoire, ça tient pas la route. Ah oui, mais t'as raison. Mais alors comment il faut faire? Donc elle a dit ben moi, tu vois, je préfère m'arrêter 10 minutes. Toutes les heures ou tous les trois quarts d'heure, mais ton truc je peux pas parce que je peux pas. Donc voilà, donc ça s'est adapté dans d'autres endroits, ils ont fait autrement. Enfin, l'essentiel c'est pas le problème de savoir comment il faut faire. Le problème c'est est-ce que dans ta tête progressivement tu réfléchis un peu plus au conflit, à tout ce qui se distribue, à tout ce qui se discute en ce moment. C'est tout. Voilà. C'était ça l'essentiel. C'était pas le Et la grève générale, surtout pas, en tout cas, pas se couper des salaires maintenant. Et ça a été une découverte. Ça s'est pas passé tout de suite. Il a fallu déjà un petit moment d'interpellation, de nombreux écrits, etc., et de paroles pour arriver à ça. Mais ça s'est passé comme ça. Donc il y a eu cette soif de comprendre, et de voir de quelle manière on peut se battre. Il y avait aussi à réfléchir différemment. Encore une fois, le système est très cadré par exemple à Libre comme dans les autres entreprises. Alors il y avait déjà quelques personnes dont j'ai été qui s'étaient en partie affranchies de ça par le débat, par la réflexion, mais il y a eu des trucs incroyables où des gens étaient arrêtés pour des choses qui étaient pas très importantes parce que notre travail dans l'entreprise était cloisonné. L'horloger, lui, l'avait, donc, hein, 30 cm par 30 cm, voilà, il débordait pas. Déjà, là, à côté, c'était plus son rayon, c'était le rayon du mécanicien. Son truc, c'était que ça. Et sa tête, elle fonctionnait sur 30 cm. Voilà. Bon, donc, après, c'est l'ouverture. On commence à ouvrir un peu, à se dire, oh là, oui, je comprends qu'il y ait besoin de référence. Mais ça n'est qu'une convention qu'on a décidée commercialement. Dans un autre cadre donné, on peut rompre cette convention. Voilà, c'est tout ça qui était mis en route.
Et puis il y avait aussi quelque chose qui semblait vous porter, vous Charles Piaget par exemple, c'est l'amour de l'entreprise, il y avait l'amour du métier.
Oui, ben là aussi, c'est assez curieux parce que moi je me disais, bon ben... Je comprends, moi je suis un professionnel à la mécanique et le boulot que je fais c'est intéressant. Mais celui qui charge une pièce toutes les deux secondes, toutes les quatre secondes, et curieusement, eh bien, malgré que c'était idiot, c'est vraiment idiot, ben finalement ils arrivaient quand même à aimer une, je sais pas, à aimer. Il y avait quand même au moins une copine, deux copines. Il y avait une certaine ambiance qui permettait quand même que ça pouvait se supporter. Mais on a vu le cas de femmes des presses qui avaient 55-56 ans. On avait demandé après 68 de leur trouver autre chose que le bruit, que le... Eh bien, elles n'ont pas pu. C'était trop tard. Elles étaient imprégnées de ça, les presses leur manquaient. C'était trop tard. On avait été trop loin dans la dépendance d'un milieu, d'une façon de... Elle ne se sentait pas en état de changer.
À Besançon, cette année-là, un millier d'hommes et de femmes se sont levés.
On fait des vers avec l'actualité immédiate.
Poète, est-ce ton rôle de témoigner pour le feu qui naît? Est-ce qu'on peut écrire des chansons sur ces femmes qui se sont mises en dimanche pendant 8 mois? Parce qu'il fallait montrer qu'on était des gens respectables et que la grève, ce n'est pas le laisser aller, mais la rigueur.
Dans le mouvement, je crois que les femmes, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout d'un coup, on découvrait qu'on pouvait être autre chose. On était OS et on pouvait devenir guide. On montait une montre et on pouvait tout d'un coup la vendre. Vous imaginez ce que ça représente. On obéissait tous les jours et tout d'un coup, enfin, on obéissait, on était assis, puis tout d'un coup, les femmes, elles étaient debout. Et là, les femmes, on s'est dit, ce groupe que nous étions, le syndicat déplore qu'il n'y ait pas assez de femmes qui prennent les responsabilités. Nous avons découvert ce que c'était et nous, on va appeler les femmes à se présenter sur les listes. Il ne faut plus rester comme ça. On est parti, on a fait un tract, vraiment très fort, très bien, tout, et on distribue. Mais alors, il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'il y a eu une surdemande et que le syndicat était débordé. Je crois qu'à l'époque, sinon, il devait y avoir une quarantaine de femmes qui s'est proposée, plus les hommes qui se proposaient, imaginez 60 pour 15. Ça va pas, quoi. C'était des combats mémorables, quoi.
Oui, ce qu'on a peut-être le mieux réussi, c'est, on a réussi à mettre 120 personnes sur la route pour aller parler en ville, un peu partout en France et en Navarre. Des gens qui n'avaient jamais, des gens de la chaîne, des gens de partout qui ne savaient, qui n'étaient pas habitués du tout. Je pense à un cas. Elle s'appelait Monique, je ne donnerai pas son nom, qui était OS, qui faisait des paquets. Bon, elle mettait des montres, elle mettait de la ficelle, du papier. Un beau jour, fallait un meeting à Nantes. Personne pour y aller, parce qu'on était déjà tous pris ailleurs. Elle est partie. Elle est arrivée toute seule là-bas. Son homme venait de la plaquer. À ce moment-là, elle avait trois gosses, etc. Vous voyez un petit peu les conditions dans lesquelles elle était. Elle est arrivée, elle a fait un meeting formidable. Il y avait 250 personnes, les gens pleuraient. Parce qu'elle a raconté sa vie de femme, de bonne femme plaquée par son homme avec trois gosses, qui avait pas de... enfin, qui savait pas quel avenir elle allait avoir, quel problème elle allait avoir, et qui se battait, et toute seule en plus. Ben, je dis ça, c'est un témoignage.
C'est pas de l'utopie pour moi, parce que ça a toujours été du concret. Toujours, de l'intérieur, j'avais toujours, il fallait que la chose se raccroche à une réalité. Donc on se battait pour un idéal, pour une autre vie, pour une autre façon de voir les choses. Ça, c'est des valeurs, c'est vrai, qui construisent.
Oui, ben non, ça a été un bouleversement, c'est vrai. Au point de vue carrière, je pense pas que ça m'a fait tellement de bien, mais enfin, j'ai découvert tellement d'autres choses que, bon. Et puis quand j'ai vu, parce que je me suis bien rendu compte à un moment donné que il y aurait plus de place pour moi, vu le rapetissement de l'entreprise, quoi. Elle passait de 900 personnes à 200 personnes, 180, 200. Bon, c'était évident que il y a des emplois qui seraient pas maintenus. Bon, ben, j'ai essayé de faire face.
Mais moi, je dois dire, je te coupe la parole, parce qu'après, je vais oublier. Quand même, nous avions tous pris des responsabilités pendant ce conflit. On s'était habitués à ce qu'on compte sur nous pour un certain nombre de choses. Qu'avant, on visait toujours notre même boulon, hein. On visait tout petit, hein. Et puis, on en visait des milliers par jour. C'était notre travail. Alors, ça nous poussait pas à la réflexion, si vous voulez, quoi, parce qu'il fallait une production importante. Et alors, ça nous poussait pas vraiment à la réflexion. Moi, je lisais beaucoup de mon côté, mais à partir du conflit Philippe, j'ai compris d'un seul coup la politique. Quand j'étais au S, dans mes petites usines, où je pensais qu'à ma petite production, ma production, et puis à rentrer à la maison, faire les devoirs aux enfants, le repas, les préparer, etc. Je regardais les informations, mais ça glissait sur moi. Je ne voyais pas. À présent, je vois tout. Et ça m'ennuie, parce que ça me fait enrager. Et quand on parlait avec Charles, on partait avec Charles Piaget pour 3 jours, c'était une pomme pour 4 pour 3 jours. Mais on le rappelait à la raison, hein, on avait faim, nous. Une pomme pour 4 qu'on se partageait dans les trains. Charles, alors, il était économe, hein, de l'argent du conflit, etc.
Alors, il y a 626 pour continuer la lutte, et puis 174 pour arrêter. Ça n'est pas 626 contre 174, désormais c'est 800. Pour obtenir de ceux qui étaient présents, les 800 se mettent du côté donc de la majorité du vote qui s'est déclaré, pour obtenir de nouvelles négociations, maintien des avantages acquis et non au licenciement. Donc c'est parti.
Vous-même, ces conflits, ces longs conflits, comment ça vous a construit, ouvert, formé?
Chaque petite étape
Charles Piaget
participe à la construction d'une personne. Moi, j'ai encore une fois, délégué du personnel, voir un certain nombre de choses, ça contribue à ma construction mentale, personnelle, le fait d'avoir été plus curieux après sur les problèmes coloniaux, sur les problèmes du système économique dans lequel on vivait, tout ça a joué aussi un rôle dans ma construction, y compris quand j'ai fait un certain nombre d'années à l'Action catholique ouvrière, où on essayait de réfléchir à l'homme, on essayait de réfléchir aussi à ceux contre qui on combattait. En pensant que, bon, pour nous, on pense qu'il y a des problèmes qui sont inacceptables, où il faut se battre, mais la personne en face de nous, c'est une personne humaine qui a suivi un autre cheminement, qui a un autre type de raisonnement, et c'est si on estime que c'est pas bon, c'est le type de raisonnement qu'on doit combattre, mais pas la personne, on doit la respecter, on doit l'écouter, comme on doit écouter, comment ses adversaires, etc. Donc tout ça construit quelqu'un. Bon, ben, je pense avoir été, et avec la conscience aussi, d'être passé à côté de plein d'autres choses, puisque j'ai découvert ça, ça veut dire aussi que j'ai oublié plein d'autres choses. Problèmes culturels, tout ce qui est beau dans la culture que j'ai à peine entreaperçu, et que j'aurais dû probablement suivre ça d'un peu plus près. Mon épouse me fait découvrir des choses que j'avais jamais remarquées. Bon, tout ça montre qu'il y a plein de choses qu'on, même en faisant, par exemple ce que j'ai fait, il y a encore plein d'autres choses que j'ai pas vues. Et c'est peut-être pas une souffrance parce que je les connais pas, mais c'est un manque pour toute personne. Et c'est un manque pour moi aussi.
De ce côté-là, de celui du monde ouvrier, c'était le mien. Je n'avais pas un autre, donc c'est celui-là. Et de fait, j'étais emportée par ça. À la fois, j'étais un acteur dedans, parce que j'organisais la popularisation, la distribution de tracts le matin dans les entreprises. Je l'organisais, constituais des équipes qui partaient dès 5h du matin à Rodia, bon, à Kelton, dans toutes les entreprises, on couvrait, on distribuait les tracts. À la fois, si vous voulez, moi,
Et quand vous rentriez chez vous le soir, vous arriviez à dormir en cette excitation-là?
Ben non, parce que c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, vous soulevez une question importante. La plupart du temps, on avait des journées qui étaient énormes. On commençait à 6h du matin. On avait beau être en lutte, mais c'était comme si on travaillait. C'était des journées énormes, mais énormes. Surtout pour les noyaux de militants. Donc, on pouvait commencer l'organisation quand on faisait des distributions de tracts. C'était à 5h du matin. C'était les équipes de nuit. Et on couvrait jusqu'à 7h30, ceux qui partaient. Et puis, on était là. Et après, on revenait à l'Assemblée Générale. On revenait au collectif. C'est-à-dire, on se réunissait, on préparait l'Assemblée Générale. Et après, on avait l'Assemblée Générale. Et après, on se répartissait encore les tâches à l'interne. Et puis, le soir, on refaisait le point. Et on rentrait chez nous. Et si on était de garde, puisque nous étions occupés.
Des occupations.
Et on terminait, c'était des journées. Mais on était dans un état d'euphorie, si vous voulez, qui était emporté par le collectif et qui était assez fort.
Les jours qui vont venir sont des jours importants. Des jours capitaux. Et vous le dites, auront besoin de l'ensemble de la solidarité de la population byzantine. En effet, il est possible, et c'est prouvé par plusieurs plans, que l'IP peut et doit repartir avec l'ensemble de ses activités, sans démantèlement, sans licenciement.
Les négociations s'engagent en janvier 1974 entre la frange moderniste du patronat, menée par l'entourage d'Antoine Riboud, et les syndicats de l'IP. Des négociations qui aboutissent à un plan de sauvetage de l'entreprise sans démantèlement, ni licenciement, avec un nouveau directeur, le publicitaire Claude Neuschwander. Le 11 mars 1974, les portes de l'usine s'ouvrent à nouveau. Deux ans plus tard, en février 1976, François titre à la une « L'IP, ça va mal à nouveau ». Une petite annonce laconique paraît dans le Figaro, l'IP recherche directeur général. Claude Neuschwander vient d'être congédié par les actionnaires, c'est le second dépôt de bilan, la seconde occupation de l'usine, le second comité d'action, la seconde série du journal L'IP Unité.
Début mars, il y a tout de suite 250 ouvriers qui sont rentrés. C'était un grand moment. S'il faisait un temps très froid, il avait de la gelée blanche, il faisait très très beau, il y avait un peu de brume sur le dos. Schwander avait les larmes aux yeux, beaucoup d'autres les avaient aussi, ou avaient du mal à chanter. C'est un grand moment. Et le soleil commençait à rosir le paysage, l'usine, tout ça, et il y avait Schwander à l'entrée de la porte. Tout d'un coup, les grilles qui avaient été cimentées, qui avaient été soudées, se sont ouvertes. C'est quoi, 7 heures du matin, 7h30, 7h. Et à ce moment-là, il y avait les 180 qui rentraient. Et il y avait 600 personnes autour. Et à ce moment-là, c'était le chant de l'international.
La corde d'ol précisait que les embauches se feraient progressivement tout au long de l'année 74 et devaient se terminer en décembre 74. Donc il y avait toute une progression de l'embauche. Et le 11 mars, on était nombreux à être devant l'entreprise
le matin,
avant la reprise du boulot, à accueillir les 130. Et puis voilà, il y a eu une petite prise de parole de Roland Vito, puis peut-être de Raymond Burgi aussi. Et ça s'est passé comme ça, avec beaucoup d'émotion.
Et on avait chanté l'International en hommage à ceux qui nous avaient soutenus, venus de tous les pays du monde.
Voilà.
Et je me rappelle, c'est Jean Godard qui l'avait entonné.
Oui, parce qu'il chantait.
À 7h du matin.
Oui.
Il y avait Claude Neufander qui était
bien
là.
Voilà, qui était là. Alors, il nous avait été présenté, bien sûr, et bien dans toute la presse, on lisait c'est le prince charmant qui vient réveiller la belle au bois dormant.
Et quand l'équipe a été au complet dans le VIP, ça a été une énorme joie, un énorme soulagement.
Un repos.
Oh là,
un poids enlevé de nos épaules. Et alors, un repos. Et un poids enlevé des épaules, qu'on s'est redressé.
Les 21 ou 22 derniers cas, dont l'assistante sociale, je me rappelle comme c'était aujourd'hui, qui ne voulait pas reprendre, on a réussi à lui faire admettre qu'on en avait besoin, etc. Bien et sûr. Il a quand même eu la... Enfin, disons, le courage de les embaucher juste avant Noël. Hein. C'est-à-dire, comme ça, ils ont pu passer les fêtes tranquilles.
Voilà.
Embaucher juste avant Noël pour rentrer fin février. Et à partir du début mars, tout le monde était dans la boutique.
Ici, le conflit, moi, il a quand même duré de 73 à 76. Hein. Et puis après, 76 à 80. Parce que le deuxième conflit, on en parle moins, parce qu'il a peut-être été moins populaire, mais c'est un conflit qui a duré énormément longtemps, qui était assez éprouvant, parce qu'il y avait moins de sympathie. Et c'est un conflit où il a fallu le mener à la forceps.
Dans une France où il y avait plus de conflits aussi.
Il y avait plus de conflits. Il y avait des choses qui étaient... Moi, je m'en souviens, aller à Paris, par exemple... On a vendu des montres sauvages jusqu'en 80, avec plus que l'extrême gauche à l'époque, hein, qui continuait, parce que nous on se bagarrait sur, on demandait tout le temps un plan. Nous on disait que sur Besançon, à l'époque, les derniers militants de la CFDT LIP, ceux qui s'étaient opposés à Piaget, faut nationaliser, il faut que LIP, il faut qu'il y ait une entreprise horlogère qui soit aujourd'hui, qui est la technologie, et puis qui avance pour maintenir l'horlogerie. Donc il faut que l'État s'engage. Et la gauche s'est engagée avant les élections. Et quand il y a eu 81, les élections, c'était coopérative, coopérative, coopérative. Hein. Et les coopératives n'avaient aucune chance de subvenir.
Mais monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi. Aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit.
LIP, c'est pas fini. Pour un peu plus de 2 millions de francs, la célèbre marque horlogère de Besançon, théâtre du grand conflit social de l'année 73, a été rachetée par une entreprise du Gers, le groupe Sansemain, spécialisé dans le petit outillage. Jean-Claude Sansemain, nouveau patron de LIP, explique ce qu'il va faire de son acquisition au micro de Bernard Thomasson.
J'ai racheté uniquement la marque LIP ainsi que les stocks. Les bâtiments étaient à vendre également, mais je ne suis pas intéressé puisque je veux rapatrier cette société qui, historiquement, était dans la région de Besançon. Je veux la ramener dans ma région natale, qui est la Gascogne, qui est le Gers. LIP est un moyen de faire du profit, car j'entends bien gérer cette nouvelle société que je vais donc implanter dans le Gers et qui s'appellera LIP France. Je vais acheter des montres là où il y a un bon rapport qualité-prix. Je ferai le montage de quelques modèles. L'économie est aujourd'hui mondiale. Il faut savoir acheter les produits là où ils sont compétitifs, là où ils sont de bonne qualité. Donc j'achèterai des montres là où elles seront fabriquées à bon rapport qualité-prix.
Peter, est-ce qu'on va donc avoir des montres LIP fabriquées à Taïwan ou Tokyo et vendues dans le Gers, au cœur de la France profonde?
Voilà, c'est une évocation de l'histoire et de la saga LIP, 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 Oura. Merci à Sébastien Galceran, auteur de C'est nous les LIP, à Jacques Bertin, à Charles Piaget, à Gaston Bordet, aux ouvriers de LIP. D'autres informations qui vous sont données par Pascal, le Pascariello. Ce soir, lundi, jusqu'au 29 novembre au studio de l'Ermitage, dans le 20e à Paris, Elf la pompe Afrique, de et par Nicolas Lambert, qui remet en scène le procès Elf sous la forme d'un documentaire théâtre. Et puis, toujours selon Pascal Pascariello, nous devons tous lire et relire Spectre de Marx et Voyou aux éditions Galilée de Jacques Derrida. Technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. L'équipe de la basse, J. Smith et Pascal Pascariello, Christophe Imbert et Yann Chouquet. Le répondeur, le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale qui va prendre fin dans 2 secondes, c'est-à-dire à 17h56 à ma montre libre. Il est 17h56 minutes.